trahit la vie, c'est tellement important chez les Juifs. Les clichés sur la morbidité, sur la tristesse totale, enfin, moi m'énerve un peu parce qu'il y a énormément de vie dans cette musique.
Elle est tout à fait à l'image, en fait, de l'histoire du peuple juif, c'est-à-dire d'un peuple migrant, qui, au fur et à mesure qu'il se déplaçait, intégrait des éléments de diverses langues.
Il y a un moment donné où, du Japon à la Finlande, des gens se mettent à jouer du klezmer.
France Culture, la série musicale Zoé Sfez.
Bonjour, nous sommes ensemble sur France Culture pour une émission toujours à Libre en 2022. Et oui, de toutes les provenances, de tous les styles, de tous les récits, de toutes les matières, une heure de radio sur la musique et en musique, c'est bon. L'éternel retour que nous entamons ensemble aujourd'hui, où je vous raconte comment les mélodies, les ritournelles, des répertoires entiers voyagent, réapparaissent au gré des reprises, sous d'autres formes, habillées d'autres mots, très loin de leur forme initiale, et comment, qu'on le sache ou non d'ailleurs, elles ont bercé nos oreilles. Et aujourd'hui, c'est de la musique yiddish, du répertoire klezmer que nous allons parler, cette musique des Juifs d'Europe de l'Est, née de la nécessité de sans cesse bouger, de sans cesse fuir, née quelque part, on ne sait pas vraiment où, entre le nord de l'Italie et les confins de la Russie, qui n'a cessé de se réinventer, de se métisser, de la fin du Moyen-Âge à l'aube du XXe siècle, avant de quasiment disparaître avec tous ceux qui en étaient les héritiers et bien sûr les interprètes, les réinventeurs, tous décimés par la Shoah. Si comme la langue yiddish elle-même, une partie de ce répertoire est irrémédiablement perdue, eh bien en fait vous le connaissez, parfois même vous le fredonnez parce qu'il a nourri le jazz, comme ici, avec un chant d'Igrine Cousine qui prend des airs très latinos, mais aussi la chanson française et même parfois, qui sait, le rap. Yiddish, l'éternel retour sur France Culture.
Of all the boys I've known and I've known some, until I first met you I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this old world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you do to me. By me a bist of shame, please let me explain. By me a bist of shame means you're grand. By me a bist of shame, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. I could say Bella, Bella, even Sevender Bar. Each language only helps me tell you how grand you are. I've tried to explain by mere bist of shame. So kiss me and say you understand. Mere bist of shame, you've heard it all before, but let me try to explain. By mere bist of shame means that you're grand. By mere bist of shame, it's such an old refrain, and yet I should explain. It means I am begging for your hand. I could say Bella, Bella, even seven to buy. Each language only tell you how grand you are. Reedy, 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 reedy.
Baimir Bezdouchain, l'un des tubes yiddish qui a connu le destin le plus étonnant. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle sort en 1937, cette chanson, la Seconde Guerre mondiale n'a pas encore éclaté. Le monde entier, de New York à Berlin, est en train de succomber au charme du swing, cette musique syncopée qui est venue des États-Unis et que l'Allemagne, déjà nazie, essaye de combattre en tant que produit de la culture noire américaine et donc en tant que musique dégénérée. Et pourtant, en Allemagne, le succès de ce titre est presque aussi florissant qu'ailleurs. Et pourquoi ne le serait-il pas d'ailleurs ? Il est chanté par trois magnifiques jeunes femmes blondes, certes, elles sont américaines, elles s'appellent les Andrew Sisters, elles sont sœurs, mais elles sont d'origine norvégienne et assez compatible avec une idéologie arienne. Et puis le titre de cette chanson est presque allemand. Bei mir bist du schön. Si on remplace schön par schön, ça veut dire pour moi, tu es très belle. Et pourtant, cette chanson est tout ce qu'il y a de plus juive, de plus yiddish. Son compositeur s'appelle Sholem Sekunda. Vous ne connaissez probablement pas son nom et pourtant vous connaissez bien ses chansons. Il est né à la fin du 19e siècle dans ce qui était à l'époque l'Empire russe, une petite ville, Alexandria, qui est aujourd'hui dans l'Ukraine actuelle. Et il est le fils d'un chantre de synagogue. Itinérant, sa famille ne cesse de fuir depuis plusieurs générations tous les terribles pogroms qui secouent la Russie tsariste tout au long du 19e siècle. Et elle finit, cette famille, par émigrer au début du siècle aux États-Unis, comme près de 2 millions de juifs d'Europe centrale à l'époque. Tout le monde va débarquer dans ce nouveau monde et en à peine 10 ans en ce début de siècle vont arriver les familles de certains des plus grands compositeurs du songbook américain, les familles de George Gershwin, celles aussi d'Irving Berlin. Et c'est en partie grâce à ces immigrés de la première vague qui vont se fondre dans la tradition musicale américaine que les mélodies yiddish finalement vont survivre et nous parvenir jusqu'à nous. Pour eux, en fait, avec eux, émerge une nouvelle scène dans ce qu'on appelle Tin Pan Alley. C'est les prémices de la grande industrie cinématographique américaine. On est à New York et puis dans Broadway qui est en pleine effervescence, celle du répertoire des opérettes, des vaudevilles entièrement écrits, chantés en yiddish pour un public yiddish. Et Baimir Bezdouchain est l'un des tubes de l'un de ces vaudevilles totalement écrits en yiddish que l'on crée sur des planches new-yorkaises pour cette nouvelle génération d'immigrés en 1932. La mélodie plaît beaucoup, alors elle est récupérée, réarrangée de manière swing par un duo afro-américain, Johnny and George, qui vont parcourir tout le sud des États-Unis en chantant cette chanson. Et puis il y a un parolier juif, Sammy Kahn, qui lui compose de plus en plus pour le Broadway grand public, qui rachète les droits et réécrit les paroles en anglais en conservant uniquement le refrain en yiddish. Il l'offre alors à l'un des groupes de Close Harmony, hein, c'est ce qu'on a entendu, trois jeunes femmes avec trois tessitures qui chantent la même mélodie avec des écarts de tierce la plupart du temps. Et c'est un énorme succès. Un mois après l'enregistrement, la chanson des Andrew Sisters est déjà vendue sur 250 000 disques, c'est énorme à l'époque. Il y a 200 000 copies de la partition qui vont être vendues et donc rechantées pour beaucoup dans tous les music halls du pays. De façon comique, en fait, les Américains comprennent très peu le titre de la chanson, qui est donc toujours en yiddish, ils le transmettent ou quand ils la chantent, ils disent « Buy a beer, Mr. Shane ». Mais ils comprennent en tout cas très bien que cette chanson célèbre l'amour, quelle que soit l'identité ou la langue de l'être aimé. Elle devient en quelque sorte, cette chanson yiddish, un hymne de cette jeune nation d'immigrants qui va dépasser les frontières et être reprise par Ella Fitzgerald, par Belle Baker, par Kate Smith, mais aussi plus tard par des Japonais et, plus près de nous, en 2020, par un groupe d'Azerbaïdjanais. Parmi Bezdouchain est à la fois très emblématique de ce qu'on a appelé l'âge d'or du swing yiddish, qui va fleurir jusqu'à la fin des années 40. Mais ce n'est pas du tout le seul tube de Sholem Sekunda, et non. Car Sekunda, vous ne connaissiez pas son nom, mais vous connaissez ses mélodies, finalement s'inscrit dans la plus pure tradition de cette culture, de cette musique yiddish, dont il est impossible d'identifier la date et le lieu de naissance, comme l'expliquait Anne Schulmeister, ethnologue, dans l'émission Euphoria sur France Culture, c'était dans les années 80.
Ces chansons ont pris naissance, on peut dire, à partir de la moitié du 19e siècle jusqu'à nos jours, bien que certaines puissent être datées approximativement vers le 16e et 17e siècle et ont subi naturellement de nombreuses transformations jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas donner une date très précise pour chacune de ces chansons, il est très très difficile de le faire, d'autant plus que certaines chansons connaissent plusieurs variantes, on ne sait pas exactement à quel moment elles ont pris naissance, mais je pense qu'on ne peut pas s'aventurer trop loin en disant qu'elles ont pris naissance à partir de la moitié du 19e siècle pour la grande majorité d'entre elles. La première compilation manuscrite qu'on a trouvée vient de Isaac de Worms et date, je vous dis, du début du XVIIe siècle. Mais ça veut dire que ces chansons étaient chantées depuis le Moyen Âge déjà. On n'en a pas de traces, mais on en est quasiment sûr.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna. Complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and have summer's night. Donna, 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 donna. Slaughtered, never knowing the reason why. But whoever treasures freedom, like the swallow, has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, 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 donna,
donna. Donna, donna aurait pu évidemment faire partie de notre émission sur les berceuses à Noël, tant elle est l'une des berceuses les plus connues, les plus reprises hein, en enregistrement du XXe siècle. Mais c'est aussi, et avant tout, évidemment, vous vous en doutiez, une chanson yiddish, elle aussi composée par Sholem Sekunda, toujours le même, toujours dans le même contexte, pour une pièce entièrement yiddish à la destination du public d'immigrés new-yorkais. Cette pièce-là, elle était écrite dans une version de yiddish biélorusse, car le yiddish est toujours un mélange, évidemment, baptisée Esterke, et son titre était alors Dana Dana, et non pas Donna Donna. Comme dans la version de John Baez qu'on entend ici avec des paroles anglaises écrites dans les années 60 par Arthur Kivess et Teddy Schwartz, cette chanson raconte l'histoire d'un petit veau ligoté que l'on va mener à l'abattoir, tandis qu'au-dessus de lui, une hirondelle vole tout à fait librement. En fait, au moment où Sholem Sekunda compose cette pièce de théâtre, ce vaudeville, cette comédie musicale à destination des immigrés yiddish, on est en fait en 1940, et la métaphore est transparente. En Europe, on mène les juifs à l'abattoir, comme dans la tradition, on mène ce petit veau à l'abattoir. La disparition des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale va être évoquée comme cela sur cette scène yiddish de manière plus ou moins voilée, dans des chansons plus ou moins dures, qui seront reprises avec des propos parfois édulcorés. En l'occurrence ici, musicalement, la chanson avait déjà évolué et c'est Sekunda lui-même qui, cette fois-ci, fort de l'exemple et du succès de Bayemir Mizdushun, va essayer d'adapter lui-même sa propre chanson pour un public plus large. Au début dans la pièce, c'est un duo entre homme et femme avec deux voix qui se retrouvent sur le refrain avec un rythme en sol mineur. Et dans la foulée, Sekonda a lui-même écrit une seconde version du morceau en ré. C'est celle qu'on écoute là avec une traduction qu'il propose en anglais et en allemand. Les partitions doivent toujours être, sont toujours annotées andantino ou sempre staccato, c'est-à-dire assez lent et chaque note devant être prononcée distinctement. Ce n'est pas ce que fait John Baez qui elle aussi reprend cette chanson dans un but un peu politique puisqu'il s'agit évidemment d'une égérie du mouvement hippie et qu'au moment où elle chante cette chanson, ce sont les prémices de la guerre du Vietnam. Il y a un autre scène mondiale et un autre genre d'abattoir. Ce qui est très évocateur avec cette chanson, c'est que Donna Donna est à la fois, comme bien des chansons yiddish, issue véritablement du folklore et de cette tradition clermésine qui accompagne les rites et les actes de la vie quotidienne, ici en l'occurrence vendre un veau au marché, mais qu'il a toujours un lien très précis avec finalement la portée religieuse de cette musique, puisque Donna Donna, c'est aussi le diminutif d'Adonai. Adonai, c'est le nom de Dieu et c'est ainsi que les enfants utilisent, en tout cas, appellent Adonai dans les petites comptines ou les petites prières qu'on leur donne à chanter quand ils sont petits. C'est donc un chant profondément juif et très intime, comme le raconte l'historien Jean Baumgarten dans l'émission Talmudique. C'était sur France Culture en 2017.
Ça me fait penser d'ailleurs ce très beau chant avec cette voix sublissime de John Baez à un chant de Levi Yitzhak de Berditchev qui était un des grands maîtres du chassidisme, qui s'appelle Doodle, et c'est une sorte d'invocation à Dieu où il lui demande où est-ce que je vais te trouver, où es-tu. C'est un texte tout à fait, enfin c'est Donna Donna Doodle qui me fait penser à cela, et là aussi c'est une mélodie et un chant donc d'appel, une sorte d'appel amoureux à Dieu qui va être extrêmement repris. Il y a d'ailleurs une interprétation par Yitzhak Perlman de cette chanson, donc qui a fait aussi le tour du monde. Donc on part du très local, du petit, enfin dans le sens où c'était dans des petites communautés et ça a circulé dans le monde entier. Il y a ces dimensions affectives et en même temps le transcendant, enfin la divinité.
Un petit garçon qui vivait dans une grande maison. Sa vie n'était que joie et bonheur, et pourtant au fond de son cœur, il voulait devenir grand, rêvait d'être un homme. Chaque soir il y pensait, quand sa maman le berçait. Donna, 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 tu regretteras le temps. Donna, 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 où tu étais un enfant. Puis il a grandi, il est parti et il a découvert la vie, les amours déçus, la faim et la peur, et souvent au fond de son cœur, il revoyait son enfance, rêvait d'autrefois. Tristement, il y pensait.
La version bien connue de bien des oreilles de Français de Claude François de cette chanson Donna Donna Donna, toujours dans les années 60. Alors là, elle est assez différente de l'original. Musicalement, en fait, elle est presque plus proche de la version originelle puisqu'il fait lui-même deux voix comme la chanson originelle comportait deux voix. Hein. On entend bien les deux voix versus la version de John Baez qu'on entendait à l'instant. Mais l'une des constantes de ces mélodies yiddish, quand elles reviennent, c'est qu'on conserve la mélodie, mais on va adapter le tempo. En l'occurrence, celle-là reste assez proche de celle de la version originelle, encore une fois, mais surtout, on va changer les paroles. Vous l'avez bien entendu, c'est très édulcoré. Dans cette version France des années 60, on a supprimé toute allusion à la tradition juive et on a supprimé toute allusion au sang, puisqu'ici, le veau est devenu un petit garçon. Et s'il reste quelque chose de la tonalité yiddish, elle est surtout dans le thème, celui de la nostalgie. C'est une chanson en fait assez autobiographique de Claude François qui, rappelons-le, est né en Égypte. C'était son paradis perdu à lui, qui avait côtoyé d'ailleurs là-bas pas mal de juifs orientaux qui sans doute écoutaient eux-mêmes une version différente de cette berceuse, une version en hébreu, puisque assez vite elle a été enregistrée en hébreu dans les années 50. On a perdu la version originelle en yiddish et évidemment lui-même se sentait chargé d'une certaine identité d'exilé, hein, Claude François. Et la chanson va être un tel succès en France mais aussi partout ailleurs, où l'image de Claude François est de plus en plus aimée dans sa blondeur, qu'il va carrément enregistrer une version identique, mais cette fois en japonais.
Dona, 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 kanashimi o tatae. Dona, 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 hakanai inochi.
Alors c'est toute l'ironie, toute la tristesse de cette longue histoire de reprise de la musique yiddish. C'est qu'après la guerre, après la destruction de cette culture et l'assassinat de millions de juifs ashkénazes, c'est à ce moment-là en fait que les références les plus directes à cet héritage vont avoir lieu. Ceux qui ont survécu ou ceux qui ont émigré à temps veulent raconter quelque chose de ce qui a été perdu, de ce qui a disparu. En 1964, aux États-Unis, le petit génie de Broadway, qui s'appelle Joseph Stein, lui-même juif ashkénaze, fils d'une famille qui a émigré au début du siècle aux États-Unis, veut tenter de raconter quelque chose, veut tenter quelque chose d'inédit, c'est-à-dire lancer une comédie musicale sur la vie au shtetl. Le shtetl, c'est ce village, la vie des juifs donc dans les campagnes russes du début du siècle, dont sont issues toutes les fables, tous les récits, les légendes dont ses parents l'ont bercé. L'idée, c'est de les mettre en musique en étant fidèle à la tradition klezmer dans la musique. Alors qu'est-ce que le klezmer? Le mot klezmer vient de l'association entre les mots hébreux klei, qui veut dire véhicule, instrument de musique en réalité, et zemer, chant, mélodie. C'est donc véritablement le klezmer, le chant comme véhicule. Et il y a aussi l'idée, dans l'idée de véhicule, des objets liturgiques qui étaient utilisés dans le temple de Jérusalem. Même si les interprètes sont depuis toujours appelés des klezmerines, c'est seulement à partir de la seconde partie du XXe siècle que le mot klezmer va être utilisé pour décrire cette musique jouée. C'est pour ça que je ne l'utilise pas à dessein, puisque c'est un mot presque rétroactif. En tout cas, l'idée de Joseph Stein, c'est ici de faire une comédie musicale sur le shtetl et en anglais et non plus en yiddish. Pourquoi ? Parce que le public du début du siècle s'est parfaitement intégré et que là encore, eh bien, la langue est presque morte aux États-Unis. Stein décide d'adapter un recueil de fables de l'écrivain yiddish Sholem Aleichem. C'était un grand écrivain de langue yiddish qui a fini sa vie lui aussi émigré aux États-Unis. Il va baser entièrement le livret de cette comédie musicale sur ces fables qui racontent la vie de Teivé, un laitier juif, père de trop nombreuses filles, et qui est pauvre et qui rêve à une vie meilleure dans un shtetl fictif de la Russie tsariste. Cette comédie musicale s'appelle The Fiddler on the Roof, le violoniste sur le toit, et c'est immédiatement un immense succès à Broadway, puis partout dans le monde. Quelques années plus tard, la comédie musicale va être adaptée à l'écran, et c'est une star israélienne, Chaim Topol, qui tiendra le rôle principal.
Dear Lord, you made many, many poor people. I know it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, yabba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dibba-dum, all day long I bidda-bidda-bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a bitty rich, idle, diddle, didle, didle man, I'd build a big tall house with rooms by the dozen right in the middle of the town. A fine tin roof with real wood floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down.
and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each loud again, the good, the gay, the gay, will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I see my wife, my gold, looking like a rich man's wife with a proper double chin, supervising meals to a heart's delight. I see her putting on hers and strutting like a peacock. Oh, what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important man in town will come to fawn on me. They'll ask me to advise them like a Solomon the Wise. If you please, Rebetevia, pardon me, Rebetevia, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think you really know. If I were rich, I'd have the time that I lack to sit in the synagogue and pray, and maybe have a seat by the eastern wall, and I'd discuss the holy books with a learned man 7 hours every day. And that would be the sweetest thing of all. If I were a rich man, all day long, if I were a wealthy man, you wouldn't have to work hard. Lord, who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan if I were a wealthy man?
If I Were a Rich Man, la version anglaise de, donc évidemment, de cette chanson chantée par Chaim Topol, donc chanteur israélien, qui va aussi l'interpréter en hébreu pour un public en Israël, état qui vient d'être créé. Évidemment, il sera l'un des garants du succès de ce film, manière de faire en sorte qu'il soit vu par le public juif du monde entier. Et alors c'est ça qui est intéressant dans cette version qu'on vous a mis en entier, c'est qu'il intègre évidemment Chaim Topol dans son interprétation toute la tradition très théâtrale, très vaudeville, un petit peu blagante, qui nous vient effectivement de ce répertoire et de cette tradition yiddish. La chanson est entièrement construite dans la tradition klezmer, hein, on l'a bien entendu, avec une montée en orchestre. Ce qui est intéressant, c'est que le compositeur, lui, est l'un des seuls de toute cette affaire à ne pas du tout être juif. Il s'appelle Jerry Bock, mais en revanche, il a beaucoup, beaucoup écouté pour composer cette pièce tous les enregistrements des tout premiers klezmerines immigrés qui avaient réussi à faire quelques disques au début des années 10. Le succès, finalement, de cette chanson va faire de cet air et de ce petit fredonnement de TIV dans la pièce, le petit fredonnement emblématique de ce fameux souhait de devenir plus riche, souhait que beaucoup partagent dans cette nation américaine qui attire encore et toujours des immigrés. Et la petite phrase de ce refrain, elle sera citée très souvent partout dans la musique. En France, par les Rita Mitsouko, dans leur chanson « Riche », en collaboration avec Doc Gineco, c'est dans les années 2000. Ce n'est pas de la très bonne musique, donc on vous l'épargnera. Mais évidemment, ensuite, plus tard, par une énorme star de la pop R&B, elle s'appelle Gwen Stefani. Elle a été révélée par un groupe qui s'appelle No Doubt, mais elle sort son premier album en 2004 et elle décide de sampler cette mélodie dans le single de ce premier album emblématique où elle désire être une rich girl. Stéphanie survitaminée, hein, des fables de Sholem Aleichem au rêve américain un peu plus bling bling de Gwen Stefani. Il n'y a qu'un pas, ou presque en tout cas, il y a cette petite rupture au moment du refrain et cette petite montée crématique qui fait de cette chanson une chanson extrêmement efficace. Ce phénomène qui consiste finalement à tenter de remettre en valeur, de remettre dans le débat, dans l'oreille des gens, un répertoire yiddish qui tournait essentiellement en vase clos avant la guerre, il est aussi évidemment à l'œuvre en Europe. En Europe, là où la catastrophe a eu lieu, là où les survivants ont besoin de revendiquer un héritage. C'est le cas pour une jeune chanteuse qui s'appelle Renée Lebas. Elle est née en France et elle n'est pas née Lebas, elle est née Lieben. Ses parents étaient des juifs roumains qui ont émigré dans la patrie des droits de l'homme dans les années 1910 en pensant en trouver un avenir meilleur dans ce pays. Avant que la guerre n'éclate déjà, la jeune Renée se fait remarquer sur les scènes de plusieurs cabarets parisiens, sous un nom bien sûr francisé, où elle défend un répertoire de chansons réalistes et surtout politiques, car Renée Lebas est communiste et elle défend sa cause. On ne va pas dire qu'elle rejette ses origines juives, mais en tout cas, elles sont masquées. Et évidemment, c'est d'abord et avant tout la cause communiste qui compte. 1940, la France est occupée. Renée Lebas est protégée, donc on l'aide à fuir en Suisse avec sa sœur, mais ses parents restent en France. Ils sont très vite identifiés et vont être tous les deux exterminés dans les camps. Quand elle revient à Paris après-guerre, Renée Lebas va avoir à cœur cette fois-ci de faire connaître les mélodies de son enfance que lui prodonnait sa mère, qu'elle a entendues dans les mariages, en les intégrant dans son répertoire, comme avec cette chanson qu'on va beaucoup écouter dans les années 50 en France, « Tire, tire l'aiguille, ma fille », qui raconte comment une mère enjoint sa fille à coudre son trousseau pour se préparer à ce grand moment qu'est le mariage. Ce sera l'un de ses plus grands succès et il est tout à fait directement issu de la tradition klezmerine pur jus, comme elle le racontait elle-même à la télévision française en 1982.
C'est un air du folklore yiddish. C'est d'ailleurs la chanson des rabbins, que les rabbins chantent pendant la fête du mariage. Et Émile Stern, qui était mon accompagnateur et mon compositeur favori, me dit on devrait arranger, réharmoniser cette musique et en faire une chanson. Il en parle à Eddie Barclay, qui était mon producteur de disques, et Eddie dit absolument. Alors ils se mettent tous les deux au travail, ils réharmonisent, etc. Il dit maintenant il faut des paroles. Alors on demande à Eddie Marnay, dont j'ai chanté les premières chansons, je l'ai fait souffrir, ce malheureux Eddie Marnay, mon Dieu. Et Eddie écoute ça, ah, il dit ça y est, j'ai la chanson. Et tout à coup, il se souvient, dans son enfance, d'un petit tableau qui était dans sa chambre d'enfant, qui représentait un homme relativement âgé, se balançant, enfin ayant l'air de se balancer, sur un rocking chair. Et c'est ce qui lui a donné l'idée de cette musique, plus évidemment l'idée centrale qui était la chanson pour les mariages, le rocking chair, de ton père se balance, oui, etc. etc. Mmh. Voilà l'histoire de cette chanson, qui est devenue un très grand succès international.
Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, demain, demain tu te maries, mon ami. Tire, tire, tire l'aiguille, ma fille, ta robe doit être finie. Sous tes doigts naissent des fleurs, faites de paillettes, de diamants, le diadème d'oranger, porte-bonheur, est entre les mains de ta maman. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 tire, tire l'aiguille, ma fille. Ta chambre est couverte de petits bouts de soie. Le chat sur le tapis s'en donne à cœur joie. Près du feu qui danse, le fauteuil se balance et berce ton père endormi. Ta maman, sans dire un mot, achève de plier ton trousseau. Ton papa saura demain, après le bal, qu'un mariage coûte bien du mal. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. La lumière de la lampe fume et chancelle. Tes yeux se couvrent d'un rideau de dentelle. Ne les laisse pas se fatiguer, mon ami. Demain, il faut être jolie. Et quand l'orgue chantera, alors est-ce qu'enfin tu lui prendras le bras? Puissent des millions d'étoiles au fil semez votre route de bonheur. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, 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 laï. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Tire, tire l'aiguille, ma fille. Laï, laï, laï.
La délicieuse chanson « Tire, tire l'aiguille, ma fille » qui a fait partie des chansons qui ont réussi à remettre dans l'oreille des Français ces mélodies, ces thèmes yiddish que peu connaissaient, grâce évidemment à René Lebas. René Lebas qui était proche d'une autre très grande voix de l'après-guerre, qui elle aussi va reprendre, peut-être même sans le savoir, une mélodie yiddish. Je parle évidemment de la grande Édith Piaf qui était très amie avec René Lebas.
En ce qui me concerne, quand une chanson était belle, je la choisissais par l'intérêt qu'elle apportait et par ce qu'elle m'apportait à moi-même.
Ouais. Alors vous avez eu une concurrente quand même prestigieuse, c'était Edith Piaf.
Oui, ma meilleure ennemie, comme je l'ai
ma
appelée.
Ma meilleure ennemie, oui, c'est ça. Alors donc vous avez créé quelques chansons
qui sont entrées dans le répertoire
de Piaf.
Oui, oui, bon, entre autres, l'accordéoniste qu'elle, elle a créé à Paris et moi dans le Midi, puisque Michel Aimer était, comme moi, replié dans le Midi de par...
Le malheureux était juif aussi. Et puis ensuite, de l'autre côté de la rue, cette chanson a été écrite pour moi, je crois. Et Edith l'a chantée après, quand je suis rentrée à Paris. Elle m'a demandé l'autorisation de la chanter. Je lui ai dit, mais naturellement, je vous donne cette autorisation.
Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu veux une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Alors rien, évidemment, dans cette chanson d'Edith Piaf qu'on connaît à peu près tous ne nous indique qu'il s'agit d'une mélodie yiddish. Ni évidemment le nom du dessinateur de la chanson, Jenny, qui est un petit peu américain, Johnny et non pas Jenny, ni même évidemment le son du clavecin qui est utilisé dans cette chanson, qui fait un petit peu tâche mais qui en fait reprend bien sûr des éléments musicaux qu'on trouve dans la version originale de cette chanson. Car d'où vient-elle cette chanson? De la plus pure tradition klezmerine roumaine, et oui, c'est une chanson qui est en réalité issue du répertoire klezmerine tzigane roumain. Elle a été composée par un compositeur juif, Richard Stein, en 36, avec des paroles d'un poète juif roumain très connu, Liviu Deleanu. Il est interprété ici par une des plus grandes chanteuses roumaines. Thank you. Cette version de cette chanson, interprétée par Maria Lătărescu, est enregistrée en 1949 par la Columbia Records. Elle place partout en Roumanie. C'est un immense succès. Elle est très étrange, cette chanson. Quand vous l'entendez, vous avez l'impression qu'elle appartient plutôt au registre tzigane qu'au registre yiddish. Et en l'occurrence, il s'agit véritablement d'une grande chanteuse tzigane et non pas juive. Mais en réalité, et c'est ça qui est intéressant, la tradition klezmérine est très très hybride, voire métissée, comme l'expliquaient deux grands musiciens klezmérines eux-mêmes, toujours sur France Culture.
C'était les musiciens qui jouaient lors de cérémonies, des mariages, les fêtes diverses, et qui se promenaient comme ça, de ville en ville. Donc forcément, la musique qu'ils jouaient était de la musique... au départ, d'inspiration un petit peu religieuse, mais elle prenait évidemment une thématique de l'endroit où se trouvaient ces musiciens.
La musique itinérante, oui, cette Luper. Musique, elle a été tellement forte qu'il y a eu des périodes à la fin du siècle dernier où il y avait des orchestres quasi permanents, comme par exemple à Berdichev, où il y avait deux, trois orchestres quasiment permanents dans cette ville qui faisaient un vrai travail en profondeur. Et une chose à dire, c'est que depuis l'origine, ces groupes de musique sont des groupes mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des musiciens juifs, il y a des musiciens tziganes, il y a des musiciens ukrainiens, il y a des musiciens lituaniens, selon les pays, qui se promènent un peu partout. Et il y a un rencontre de musique, de culture, et il y a des airs, on ne sait pas s'ils sont klezmer à l'origine ou ukrainiens, ou ouais. Ukrainiens et klezmer, il y a des mélanges comme ça qui sont particulièrement intéressants.
Johnny is the boy for me, always knew that he would be, but I never caught his eye, he would always pass me by, never had a glance for me. Though I loved him from the start, and I told my eager heart, Johnny is the boy for me.
Vous entendez ici la version reprise par les Américains Les Paul et Mary Ford. En fait, on est en 53 et on ne sait pas vraiment comment. Ce musicien de country américaine qu'est Les Paul a entendu et tombé sur cette version de Sanye Chusurgalai enregistrée en 49 par Maria Lătărescu, qui entre-temps a un peu américanisé son nom, Marie Lătărescu, pour avoir une plus grande carrière. Et que fait-il? Eh bien, il trouve que la mélodie est pas mal, il décide d'en faire une chanson où lui joue à la guitare et à la mandoline et où il fait chanter une bonne chanteuse de blues de l'époque, à savoir Mary Ford, sous ce titre « Johnny is the boy for me ». C'est cette version, en fait, que Piaf va reprendre quelques mois plus tard en français, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, dans Johnny, tu n'es pas un ange. Mais que se passe-t-il? Il se passe que, quasiment pour la première fois dans l'histoire de la musique, et encore plus dans, finalement, cette espèce de cannibalisme des musiciens entre eux, eh bien, le fameux compositeur roumain Richard Stein, de la chanson originelle, va attaquer pour plagiat le chanteur américain, le jazzman américain qui a repris sa chanson. C'est l'un des tout premiers procès pour plagiat dans l'histoire de la musique, et il vient précisément de cette appropriation, ou en tout cas de cette reprise non créditée à l'époque, les droits d'auteur étaient beaucoup plus embryonnaires que maintenant, d'une musique du répertoire klezmer, yiddish et tzigane, vers évidemment la chanson américaine. Mais avant cela, la musique yiddish, la musique klezmérine, la musique tzigane, en tout cas cette espèce de musique métisse qui a traversé toute l'Europe entre le 19e siècle et le début du 20e siècle, elle est à l'origine d'une autre, une autre grande chanson, d'un autre hymne qu'on a souvent dit italien, et évidemment il l'est, c'est Bella Ciao, qui vient pourtant lui aussi, du répertoire yiddish, comme vous allez très vite l'entendre.
En fait, cette chanson-là, elle vient donc des rizières. Elle a été probablement, parce que la Dafani est entrée dans la résistance vers la fin de la guerre, elle l'a certainement chantée auprès des résistants, et eux l'ont transformée pour en faire cette chanson de résistance. mais qui est quand même une drôle de chanson de résistance, parce qu'elle n'est pas très martiale, on parle juste de quelqu'un qui meurt, quoi. Et c'est presque romantique comme chanson. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Bella Ciao, elle a été traduite, je crois, en 70 langues ou quelque chose comme ça. Mais auparavant, c'est cette mélodie-là, avec cette ritournelle, c'est qu'en fait, elle vient encore d'ailleurs. Probablement, aujourd'hui, tous les gens qui s'intéressent à la chose pensent qu'elle vient d'ailleurs. C'est une chanson, en fait, klezmer, du folklore juif d'Odessa, en Ukraine, et qui a été, par le biais d'un chanteur, c'est vraiment
accordéoniste.
Oui, qui a ouvert un restaurant à New York et qui s'appelait Tsiganov, donc un tzigane, un gitan, et qui après il est revenu en Italie, va savoir comment. Bon, c'est un mystère.
Vous l'avez entendu ici, cette version donc originelle des Tziganov, qui étaient donc des Tziganes qui avaient immigré d'Europe pour aller à New York, qui ont enregistré la toute première version que je vous ai fait écouter en 1919. Et oui, on a retrouvé cet enregistrement avant de revenir on ne sait comment en Italie. En tout cas, c'est la mélodie qui a voyagé, qui a été reprise par les chanteurs dans les rizières. Et de là, il est devenu un hymne politique pendant la Seconde Guerre mondiale. Incroyable histoire de l'Europe qu'on peut raconter par la musique. C'est ça qui est beau. Ce qui est intéressant, c'est que cette musique yiddish, qui porte en elle évidemment beaucoup de nostalgie, beaucoup de force de vie, elle est devenue aussi musique d'hymne pour une autre catégorie de population marginalisée ou en tout cas mal considérée aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que les premiers immigrés juifs d'Europe de l'Est débarquent dans à peu près les mêmes quartiers, notamment à New York, qu'habitent à l'époque les Noirs américains qui sont en train eux-mêmes de se battre pour leurs droits. Et très vite, toute une génération de chanteurs entre les années 30 comme Cab Calloway, mais plus tard ensuite dans les années 60, vont se servir d'hymnes issus de la culture yiddish ou même voir des textes religieux. Toute une série de chanteurs afro-américains vont reprendre à leur compte les grands hymnes yiddish et juifs pour demander plus de liberté. C'est le cas par exemple de Johnny Mathis, c'est l'un des crooners noirs américains qui est aussi d'origine des Premières Nations, un grand crooner des années 50 qui va s'éprendre véritablement du répertoire yiddish et triompher en 1958 avec une interprétation magistrale d'Eli Eli, qui est un chant yiddish, alors là pour le coup traditionnel, qui remonte à très très loin, profession de foi face aux épreuves, qui devient véritablement un grand hymne de la lutte pour les droits civiques. Eli Eli, Johnny Mathis, 1958.
Mit Feuer und Flammen
brennt überall hat man uns gemacht so schon so spät da abzuwenden hat uns
Eli Eli, par Johnny Mathis, on pourrait évidemment vous parler de cette grande tradition qui a vu par exemple une chanteuse de soul comme Marlene Achaud reprendre en 1969 alors qu'on est vraiment au cœur des débats une chanson comme Where Can I Go qui était en fait une chanson Wohin Soll Ich Gehen écrite par Leo Fuld, un compositeur pendant la révolte du ghetto de Varsovie. Mais évidemment, ce qui est aussi très intéressant dans cette longue histoire yiddish, c'est qu'elle est redécouverte plusieurs fois. Vous entendez ici Marlene Achaud. Elle va ensuite être redécouverte toujours au fur et à mesure par toute une nouvelle génération de descendants, de troisième génération d'immigrés juifs. Ça va être le cas à New York, où de plus en plus, à mesure que le rap émerge, on va sampler des mélodies, des musiques yiddish. C'est le cas aussi avec ici quelqu'un qu'on aime beaucoup, le rappeur canadien et producteur So Cold, qui va lui véritablement se plonger dans le répertoire yiddish du vaudeville que j'évoquais tout à l'heure et inventer presque un son à lui-même qui est le klezmer rap. Écoutons peut-être pour se quitter une chanson qu'on adore, You Are Never Alone, de So Cold, véritable Jewish cowboy.
And frankly, there's nothing so unusual about being a Jewish cowboy.
On the trail to nowhere, all I have is a horse. Even he would leave if he broke free of this curse. All I got's memories, they aren't even mine. On the drive, wind wails till my song is blown away.
So Cold, You Are Never Alone, la rencontre de cette culture afro-américaine. On vous conseille vivement d'écouter les reprises de My Yiddish Mame par Billie Holiday, mais aussi Eli Eli qui a été incarnée très bien par Duke Ellington et évidemment de cette culture yiddish que l'on entend ici grâce à So Cold. Merci à tous d'avoir suivi cette soirée musicale. Elle a été préparée avec le concours de Stéphanie Valois et de Lou Quevauvillère qui a travaillé avec moi et j'en suis ravie. Elle a été réalisée par le grand Olivier Guérin. C'est Marie-Claire Oumabadi qui était à la prise de son aux manettes aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe de la discothèque de Radio France. Vous retrouvez cette émission bien sûr sur le site de France Culture et sur franceculture.fr dans toutes les bonnes applications de podcast. Une pensée pour Sam Koenigsberg qui m'avait fait découvrir So Cold. La semaine prochaine, la série musicale explore le patrimoine immensément riche de la musique italienne.
Bounty on my head, spurs on your feet. We are the out of towners, the county gives us grief. Or iron horses, we gallop at light speed. New sheriff in town, I still fit the description. So they stressing me, do them like ashtrays and put the clip in. Maintain, cause I'm chosen, like hieroglyphic inscriptions. To be decoded by those who ain't frozen.